Les vacances ont été bonnes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens de retour, bien bronzés. Et je pense que vous êtes bien reposés et bien en bonne condition pour entendre un message de la parole de Dieu. Et ce matin, je voudrais commencer par une question. Question un peu bête. Est-ce que vous avez, et vous avez sûrement... Vous avez sûrement déjà demandé à Dieu, faut mettre après là. Vous avez déjà demandé sûrement à Dieu une faveur, quelque chose que vous ne méritiez pas. Vous lui avez peut-être déjà demandé de vous faire grâce. Alors imaginez que vous le suppliez de vous faire grâce pour quelque chose et qu'il se mette en colère contre vous. Ça ne se peut pas, ça ne ressemble pas au Dieu qu'on connaît, n'est-ce pas ? Dieu peut-il se mettre en colère contre vous au point de vous priver de sa faveur, au point de vous priver de sa bénédiction, au point de ne pas vous faire grâce ? Une question qui peut sembler étrange. Eh bien, je vous invite à lire un texte ce matin dans le Deutéronome, au chapitre 3 et au verset 23. Et nous lirons les versets 23 à 29. Et c'est Moïse qui parle et qui dit « Je demandais alors une faveur à l'Éternel. Seigneur Éternel, lui dis-je, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta puissance. Et quel Dieu dans le ciel et sur la terre pourrait accomplir de telles œuvres ? Et avec autant de puissance. Permets-moi, je te prie, de traverser le Jourdain pour voir ce bon pays qui se trouve de l'autre côté, cette belle contrée montagneuse et le Liban. Mais l'Éternel s'était mis en colère contre moi, à cause de vous, et il ne voulut pas me l'accorder. Assez, me dit-il, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga et promène tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, encourage-le et affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Nous sommes donc restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. » Alors c'est un texte déroutant que nous avons ce matin. Et avant de l'étudier, je vais prier. Seigneur Dieu, tu mets devant nous ce matin un texte de ta parole pour nous apprendre quelque chose. Et je te prie vraiment que ton esprit nous parle ce matin. Je te prie que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Et je te remets ce moment, Seigneur. Et par-dessus tout, je te prie qu'à toi, Seigneur, revienne toute la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Alors Dieu refuse une faveur à un enfant qui le supplie de lui accorder. Alors ce texte n'est pas un texte sur la prière, ou sur le fait que Dieu ne répond pas toujours favorablement à nos prières, parce qu'il aurait quelque chose de meilleur à nous donner. Ce texte n'est pas là non plus pour nous dire que nous devons avoir plutôt les yeux fixés sur Dieu que sur ses bénédictions. Ces applications ne sont pas totalement fausses, sont même plutôt vraies, mais elles laissent de côté une idée centrale du passage, celle de la colère de Dieu contre Moïse. Et surtout, elles laissent de côté le contexte du passage. Premièrement, ce n'est pas n'importe qui s'adresse à Dieu, c'est Moïse. Et deuxièmement, il ne demande pas n'importe quoi. Il ne demande pas une bénédiction comme toutes les autres. Ce qu'il demande, c'est ceci. Et là, Christina, tu peux mettre le PowerPoint. La terre promise. Après 40 ans dans le désert, Moïse est avec le peuple aux portes de cette terre promise. 40 ans à tourner dans le désert. Et avant ça, 400 ans d'esclavage en Égypte. L'oppression, l'humiliation quotidienne. Et voilà, le peuple est aux portes de ce pays que Dieu a promis depuis tant de temps. Il a même déjà commencé un peu la conquête en détruisant certains rois à l'est du Jourdain. Et il s'apprête désormais à franchir ce Jourdain. Rendez-vous compte, ça fait 40 ans qu'ils errent dans le désert. Et enfin, le jour est là. Ce pays promis par Dieu, ce cadeau, rempli de bénédictions, est juste là, devant eux. Ils n'ont plus qu'à franchir le fleuve. Et Dieu va leur ouvrir toutes les portes. Il va chasser toutes les nations devant eux. Et ils auront enfin un pays où ils pourront couler des jours heureux. Oui, ça y est, c'est là. Le jour est enfin arrivé. Mais il y a un problème. Tout ça, ce n'est pas pour Moïse. Dieu est toujours en colère contre lui. Et la colère de Dieu contre qui que ce soit lui empêche d'obtenir sa faveur, lui empêche de recevoir le cadeau que Dieu veut lui faire. La colère de Dieu est un véritable problème pour Moïse et pour l'homme en général. Et si Dieu est à tel point, si Dieu peut être à tel point en colère contre Moïse, cela nous pousse à nous poser la question : Dieu est-il en colère contre moi ? Dieu est-il en colère contre vous ? Pourtant, nous allons voir que Moïse est un homme à suivre, un exemple à suivre. C'est ma première partie ce matin. C'est un homme qui est certes coupable devant Dieu, mais un homme qui aime son Dieu, qui aspire aux bénédictions qui viennent de Dieu. Oui, Moïse est un exemple à suivre, mais Moïse est aussi un exemple que personne ne voudrait suivre. Il faut être honnête, il faudrait être fou pour vouloir être comme Moïse, privé de la faveur de Dieu, sous le coup de sa colère à cet instant. Alors, arrivé à ce point-là, je pense que nous comprendrons mieux ce que Dieu veut nous dire quant au problème de sa colère. Alors nous allons commencer tout de suite avec ma première partie, Moïse, un exemple à suivre. Alors c'est vrai que Moïse est un exemple, mais ça n'empêche pas qu'il soit coupable devant Dieu. Et le verset 23 nous indique que Moïse s'est présenté devant Dieu en implorant sa faveur. Il sait donc que ce qu'il s'apprête à demander est quelque chose que Dieu est en droit de lui refuser. Mais il demande une faveur à son Dieu. C'est impossible de comprendre pourquoi Moïse considère comme une faveur le fait d'entrer dans le pays promis si on ne regarde pas au contexte de notre passage. Je vous invite à chercher Nombre, verset 27. Chapitre 27, pardon, verset 12. Nombre 27, verset 12. L'Éternel dit à Moïse : Gravis cette montagne de la chaîne des Abarim et contemple le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le regarderas, puis tu iras rejoindre tes ancêtres décédés, comme ton frère Aaron. Car vous avez désobéi à mon ordre dans le désert de Tsin, lorsque la communauté me cherchait querelle. Vous n'avez pas honoré ma sainteté devant le peuple en faisant jaillir de l'eau. Il s'agit de l'épisode des eaux de Meriba qui eut lieu à Kadesh, dans le désert de Tsin. Moïse est coupable de ne pas avoir honoré la sainteté de Dieu lors de l'épisode des eaux de Meriba. Alors je vous invite à chercher cet épisode dans Nombre, chapitre 20. et je lirai les versets 1 à 13. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer, alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert ? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère ? Ici, on ne peut rien semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit « Prends ton bâton et avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté pour qu'il donne son eau. » Pardon. Rassemblez la communauté devant eux, là, devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné. Et Moïse leur dit « Écoutez donc, rebelles que vous êtes, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» Moïse leva la main et par deux fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Vous ne m'avez pas été fidèles et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Ce sont là les eaux de Meriba, de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel, et où il manifesta sa sainteté devant eux. » Nous voyons ici que le peuple s'en prend à Moïse, qu'il remet en question son autorité. Tous leurs problèmes viennent de Moïse. Ils n'auraient jamais dû le suivre dans ce désert. Ils n'ont même plus d'eau à boire. Ils vont tous mourir. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Moïse fait toujours office de paratonnerre entre le peuple et Dieu. Il encaisse sans cesse les remontrances et la rébellion du peuple. Alors il a la bonne attitude en allant à Dieu, avec Aaron, et Dieu lui dit de parler à un rocher qui leur donnera de l'eau. Dieu va encore faire un miracle extraordinaire pour le peuple. Leur montrer sa gloire, leur montrer qu'il est là, qu'il pense à eux, qu'il ne les laisse pas tout seuls. Mais Moïse, à force de faire office de paratonnerre, ce coup-ci, il a surchauffé. Moïse en a plus qu'assez de la rébellion de ce peuple. Et il se dit, ils vont voir qui je suis, ils vont me respecter maintenant. Écoutez donc, rebelles, pourrons-nous faire jaillir pour vous de l'eau ? Et il frappe deux fois le rocher. Moïse a voulu s'attribuer la gloire de ce miracle en le faisant à sa manière. Il n'a pas obéi à Dieu, car il voulait que le peuple cesse de s'en prendre à lui. Il a fait preuve d'orgueil. Il a voulu s'attribuer la gloire qui revenait à Dieu. Voilà la faute de Moïse. Et il n'y a pas de doute, Moïse est coupable. L'orgueil, la désobéissance, le manque de confiance, même dans cette situation particulière, provoque la colère de Dieu et son jugement. Moïse est un homme coupable devant Dieu et il sait cela. Voilà pourquoi il demande à Dieu comme une faveur de pouvoir revenir sur son jugement, de changer de décision et de lui faire grâce de cette faute. L'attitude de Moïse est bonne, il a conscience de sa faute et il vient demander grâce à Dieu. Sachons nous aussi aller devant Dieu humblement, sans nous chercher d'excuses. Reconnaissons que nous ne méritons rien de lui. Chacune de ses bénédictions est une faveur, est un cadeau. Moïse en a conscience, et c'est pourquoi il vient devant lui en le suppliant de lui accorder sa faveur. Alors Moïse est un homme coupable devant Dieu, mais c'est aussi un homme qui a bien compris que tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière. Il aspire aux bénédictions qui viennent de Dieu. On pourrait croire que, sur un premier avis, que la demande de Moïse est un peu charnelle. Il veut aller dans ce pays parce qu'il y a de la nourriture, du confort, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais je pense que ce serait mal comprendre ce que demande Moïse et ce que représente le pays promis à ses yeux. Moïse dit à son Dieu au verset 2 de notre passage, « Tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante, car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits ?» Ce que désire Moïse, c'est de voir la grandeur, la puissance de Dieu, sa bonté. Ce qu'il souhaite, c'est voir de ses yeux le bon pays que Dieu a préparé pour son peuple, cette bénédiction suprême. Il a commencé à goûter à la puissance de Dieu. Il a commencé à le voir agir, mais il sait que de l'autre côté du Jourdain se trouve le lieu ultime que Dieu a préparé, ce cadeau de très grande valeur. Savons-nous reconnaître ce qui vient de Dieu comme ce qu'il y a de meilleur? Le psaume 106 nous parle du peuple juif. Je vous invite à le chercher. Psaume 106, verset 24. Il nous parle un peu de ce thème. Le psaume 106, verset 24 nous dit « Ils ont méprisé un pays de rêves parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. » Ils ont protesté au fond de leur tente et ils ont désobéi à la voix de l'Éternel. Nous voyons que nous pouvons mépriser parfois ce que Dieu a en réserve pour nous. Et ce que nous montrent ces deux versets, c'est que cela nous conduit vite à la désobéissance, à la rébellion contre Dieu. Moïse, lui, faisait vraiment de l'Éternel ses délices. Il aimait son Dieu et recherchait ce qui vient de lui. Quels sont nos propres centres d'intérêt? Qu'est-ce qui nous pousse à agir, à parler, même à prier? Est-ce qu'il nous arrive de mépriser quelque chose qui vient de Dieu parce que nous voudrions quelque chose qui nous semble meilleur? Ce que Dieu tient en réserve pour son peuple a plus de valeur que toute autre chose. Moïse peut être un modèle pour nos vies parce que c'est un homme qui reconnaît sa faute et qui humblement demande à son Dieu de lui accorder sa faveur, pour qu'il puisse goûter encore sa grandeur et sa bonté. Seulement voilà, si jusqu'à cet instant nous pouvions prendre Moïse pour exemple, si nous pouvions désirer le suivre, être comme lui, je suis obligé de dire que la suite va nous en décourager. On peut suivre Moïse dans son humilité face à Dieu. On peut le suivre dans son amour pour ce qui vient de Dieu. Mais aucun de nous ne voudra le suivre dans la réponse que lui fait Dieu. À quoi peut bien servir de venir devant Dieu supplier sa faveur s'il ne l'accorde pas? Et pourquoi ne l'accorde-t-il pas? Dieu n'est-il pas bon comme on le croyait? Dieu n'est-il pas un Dieu qui pardonne nos fautes? Pourquoi se met-il en colère quand Moïse vient lui demander grâce? La réponse est au verset 26. L'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous, à cause du peuple. On a vu tout à l'heure que Moïse lui-même est coupable d'une faute envers Dieu. Mais ce qui est dit ici, c'est qu'en dehors de la faute de Moïse, c'est en fait la faute de tout le peuple qui lui retombe dessus. Nous lisons encore une fois dans le psaume 106, les versets 32 et 33. Ils ont irrité Dieu à Meriba, et ils ont fait le malheur de Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Moïse est un peu le bouc émissaire dans cette histoire. Il subit la colère de Dieu contre toutes les méchancetés, les infidélités, les horreurs qu'ont commises le peuple contre son Dieu. Dieu ne peut pas laisser ça impuni. L'Éternel s'était mis en colère contre moi à cause de vous. Le cri de Moïse, son désir ardent d'entrer dans le repos de Dieu, cette terre promise si bonne à ses yeux, ne peut pas être entendu. Dieu ne peut y répondre favorablement. Il faut qu'il fasse justice. Alors qui veut de la place de Moïse ? Imaginez-vous arriver au ciel, être aux portes du lieu parfait que Dieu a préparé de toute éternité pour son peuple, le paradis, la vie éternelle, et supplier Dieu de vous faire grâce, de vous laisser entrer, et recevoir pour toute réponse, ça suffit. Ne me parle plus de ça. Tu n'entreras pas. Il faudrait être fou pour vouloir cela, non ? Mais laissez-moi vous proposer quelque chose d'encore plus fou. Supposez que vous ne soyez coupable d'aucune faute et que vous ayez libre accès auprès de Dieu. Que le paradis soit comme votre maison. Seriez-vous prêt à dire « Non, moi je veux la place de cet homme qui subit la colère de Dieu. Je veux subir ta colère, Seigneur. Je veux que tu me fermes l'accès au ciel. » Eh bien, c'est ce qu'a fait notre Sauveur. Cette place de banni, de maudit, sur qui retombera toute la faute des hommes et à qui Dieu n'accordera aucune faveur, c'est la place qu'a pris Jésus. Jésus n'était-il pas fou de faire cela ? Qu'est-ce qui a bien pu le pousser à faire une chose pareille ? En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. 1 Corinthiens 1, 18. Ce qui a poussé Jésus à faire cela, je pense que le verset 27 nous l'explique, même s'il nous parle de Moïse. Je relis le verset 27. Monte au sommet du Pisga et promène tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux. Mais tu ne passeras pas le Jourdain. Vous allez me dire quel rapport ? Quel rapport entre le fait que Jésus a choisi de subir la colère de Dieu alors qu'il ne la méritait pas, et le fait que Dieu a dit à Moïse de contempler le pays promis du haut du mont Pisga ? Eh bien, Dieu demande à Moïse de contempler le pays afin qu'il puisse voir et être assuré que le pays est bien là, que le peuple héritera bien de la promesse. C'est comme si Dieu souhaitait le rassurer, en lui disant « Toi, tu n'entreras pas, mais ne t'inquiète pas, le peuple en prendra bien possession après toi. Contemple ma grâce, ma bonté, mon amour pour ce peuple. Toi, tu en es privé aujourd'hui, mais c'est pour que mon peuple puisse y accéder. J'essaye de m'imaginer ce qu'a pu ressentir Moïse à cet instant, sur cette montagne. Moïse qui, toute sa vie, a été au contact de Dieu, qui était le seul à pouvoir discuter directement avec lui. Il était si proche de Dieu que parfois il rayonnait lui-même de la gloire de Dieu. Cet homme avait une intimité avec Dieu si profonde qu'il est difficile pour nous de l'imaginer. Et en ce jour-là, il découvre quelque chose qu'il ne connaissait pas encore de son Dieu. Il contemple sa grâce envers son peuple, sa bonté et sa grâce pour des pécheurs. Oui, le pays qu'il voit du haut de la montagne, ce beau pays, plein de bonnes choses, il est là et il est pour le peuple juif. Il devait en avoir les larmes aux yeux, Moïse, de voir cela. Et sûrement, il s'est dit que ça valait le coup. Que ça valait le coup que lui-même renonce à ce bon pays, si cela permettait au peuple d'y entrer. Jésus, en allant à la croix, avait en vue la grâce, l'amour, la bonté de Dieu envers son peuple. Il savait qu'en faisant cela, il ouvrait les portes du ciel aux pécheurs. Ce n'est pas par folie qu'il a fait ça. C'est par amour pour les hommes. La folie serait pour nous de refuser d'entrer dans le pays. De dire à Jésus, mais tout ce que tu as fait, ça ne sert à rien. Moi, je n'y vais pas. Alors, on continue avec le verset 28. Et il y a un rebondissement dans le verset 28. En effet, il y a une nouvelle personne qui apparaît. Josué. Yehoshua en hébreu. Ce qui signifie l'Éternel est salut. On peut dire que c'est vraiment l'homme qui tombe à pic. Son nom convient parfaitement aux circonstances, non ? Donne tes ordres à l'Éternel et salut. Encourage-le et affermis-le. Car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Alors je me permets une petite parenthèse. Vous savez peut-être que dans le monde du travail, il peut arriver que vous ayez à reprendre le poste de quelqu'un. Quelqu'un qui s'en va pour un autre poste. Si la personne s'en va le vendredi soir, et que vous arrivez le lundi matin, je pense que vous êtes mal barré. Parce qu'en général, un bon manager, il s'arrange pour qu'il y ait une période de chevauchement, où vous allez être tous les deux sur le poste, pour que la personne qui part puisse vous transmettre son expérience, ses connaissances. C'est ce qu'on appelle faire un biseau. Et là, nous voyons que Moïse doit faire le biseau avec Josué. Même si Moïse doit laisser le peuple et ne sera plus là pour le guider, il continuera en quelque sorte à le diriger par l'intermédiaire de Josué. En effet, Moïse va transmettre des ordres très précis, des directives à Josué. Et si vous lisez le livre de Josué, vous verrez qu'à plusieurs reprises, il est mentionné que le peuple a suivi à la lettre les ordres laissés par Moïse. C'est écrit littéralement dans le livre de Josué. En Josué 4, verset 10, 4, verset 12, Josué 8, verset 31, verset 33, verset 35, Josué 11, verset 12, Josué 11, verset 15, verset 23, Josué 14, verset 2, 14, verset 5, Josué 17, verset 4, Josué 21, verset 8, et 22, verset 2, et 22, verset 5. J'ai failli en oublier un. Et sûrement, la liste n'est pas exhaustive. Alors, comme vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, je vous invite à en chercher un ou deux. On peut chercher Josué 4, verset 12. Les hommes des tribus de Ruben, de Gad et de la demi-tribu de Manassé marchèrent en ordre de bataille en tête des autres Israélites, comme Moïse le leur avait demandé. peut chercher également en Josué 22, verset 5. Et celui-là, je ne résiste pas à l'envie de vous le lire, parce qu'il est tellement beau. Josué 22, verset 5. Seulement veillez bien à appliquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous. Obéissez à ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. Le peuple s'est conformé aux ordres que Moïse avait laissés et cela leur a permis de remporter des victoires. Mais à certains moments, le peuple n'a pas agi conformément à ses ordres. On le voit plutôt cette fois dans le livre des Juges. Et cela l'a entraîné loin de Dieu. Là encore, je trouve que le parallèle entre Moïse et Jésus est frappant. Laissez-moi vous montrer ceci. Pourquoi vous montrer cette image ? Eh bien, pour vous rappeler que l'Ancien Testament est une ombre des choses à venir. Et que souvent, si vous apportez la lumière du Nouveau Testament sur un texte de l'Ancien, eh bien, vous allez voir ça. Une ombre de la croix. Et c'est encore le cas de ce verset 28. Il a quelque chose à nous apprendre si on y apporte la lumière de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, pardon. Donne tes ordres à l'Éternel et salue, encourage-le et affermis-le, car c'est lui qui conduira ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu vas contempler. Jésus devait passer par la croix pour nous ouvrir les portes du ciel. Mais cela voulait-il dire que ceux qui le suivent se retrouveraient seuls ? Non. D'une part parce que lui aussi également a laissé des directives avant de partir. Et d'autre part, car même si Jésus devait mourir pour nous ouvrir le ciel, c'est ce même Jésus qui s'est relevé, prouvant ainsi que l'Éternel est salut pour l'humanité. Et c'est ce même Jésus qui doit nous guider aujourd'hui vers la victoire. Sommes-nous prêts à nous laisser guider par l'auteur de notre salut dans tous les choix que nous faisons ? Sommes-nous prêts à suivre les directives qu'il a laissées dans sa parole ? Les directives de Dieu sont claires. Elles sont toutes là, dans la Bible. Elles nous mèneront à la victoire dans toutes les circonstances de nos vies. Allons-nous faire comme bon nous semble ? Ou allons-nous suivre ce qui est écrit ? Nous avons vu aujourd'hui, à travers l'exemple de Moïse, à quel point la colère de Dieu est un problème pour l'homme. Ce problème a coûté cher à Moïse, privé de la faveur de Dieu. Il est bon de se demander si nous avons personnellement réglé ce problème avec Dieu. L'exemple de Moïse est aussi là pour nous montrer à quel point Dieu souhaite faire grâce à un peuple nombreux. C'est pourquoi Jésus, son fils, a dit « Moi, je viens. Condamne-moi à leur place. Je veux cette place de maudit, de banni, pour qu'eux puissent avoir leur récompense. » Tout comme Moïse a subi la colère de Dieu, Jésus a subi cette colère. À la différence que lui n'était pas coupable. Il a subi cette colère pour nos propres fautes. Et cette fois-ci de manière parfaite et définitive. Dieu est-il toujours en colère contre moi ? Suis-je prêt à connaître et à suivre la parole de celui qui a pris la place que je ne voulais pas ? Je vous invite à prier. Ouais, Seigneur Dieu, je te remercie encore de l'exemple de ton serviteur Moïse. Je te remercie de cet exemple d'humilité, de cet exemple d'un homme qui te recherche et qui t'aime, mais aussi cet exemple d'un homme qui est sous le poids de ta colère. Et Seigneur, merci de nous avoir éclairés par la venue de ton Fils Jésus, de nous avoir révélé que cette colère, on peut y échapper, car Jésus a subi ta colère. Seigneur Dieu, apprends-nous à suivre tes directives dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous choisissons dans la vie. Apprends-nous à apprécier par-dessus tout ce qui vient de toi et à ne pas le mépriser. Merci encore pour ta parole, pour ton amour pour nous, car ta parole déborde de ton amour. Je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.